Adicias, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de l'émission. Et si demain que vous retrouvez tous les mardis en direct entre 17h et 18h, sauf peut-être pour le 1er mai, le 8 mai, où nous préenregistrerons les émissions. Ce sera un petit peu exceptionnel. Donc, et si demain on arrivait à éradiquer la mucoviscidose, ben ce serait super. Et nous recevons à ce propos Frédéric Tecky. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans l'émission « Et si demain ?». Donc, tu es le fondateur de l'association toulousaine Juste y croire. Alors, tu peux nous dire pourquoi cette association ?
Alors oui, donc, c'est une association toulousaine Juste y croire qui a été fondée pour ma fille, donc, ben, qui s'appelle Justine, qui est âgée de bientôt 4 ans. Donc voilà, je l'ai créée ben, parce que j'avais perdu pied à l'annonce de cette maladie. Et ben, j'ai voulu un peu me retrousser les manches et faire quelque chose et, pour elle et pour les autres enfants. Et ben, c'est vrai qu'à chaque événement que je fais, ben, j'ai l'impression un petit peu ben, de la guérir. Donc voilà pourquoi je l'ai créé. Et aujourd'hui, ben, je fais grâce à l'association et grâce à Justine, je fais de très belles rencontres humaines et qui est très important pour nous.
D'accord. Alors, je remercie bien sûr, comme d'habitude, Jean-Loup Arzac-Fraisse qui est à la réalisation. Et sans réalisation, pas d'émission, micro Christian Moreto. Mais je salue au passage mon confrère aussi, Landy Sella, qui ne peut pas être là ce soir. L'émission est aussi en coopération avec nos amis de l'American Cosmograph Exitopia Toulouse, TV Sol Actualité sur Internet. Et puis également, nous avons nos amis du Théâtre du Pavé. Voilà, et je remercie toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Et l'indicatif est signé de Damien Moreto. Donc, Frédéric Tecky, quand on apprend cette nouvelle qu'on a une enfant malade, et c'est quand même une maladie très sérieuse et où il faut être là, attentif à tous les instants, c'est quand même compliqué, difficile.
Oui, moi, ce qui a été compliqué pour moi, c'est... Justine, j'ai vu Justine inerte à la naissance. Donc Justine est née, ne respirait pas. Donc je l'ai vue et je suis resté 4 heures dans le bloc avec elle. Et elle a tenu la série. Et je lui ai fait une promesse que je pense que tous les papas feraient. Et je lui ai promis que si elle s'en sortait, il n'y arriverait plus rien. Et donc un mois après, j'ai appris que... qu'elle avait la mucoviscidose. Donc ça, j'ai du mal. Excusez-moi, mais à chaque fois que je reviens sur ça,
c'est normal. Enfin, ça, il n'y a pas à t'excuser.
Ça, j'ai du mal à l'accepter, parce que j'ai fait une promesse que je tiendrai pas. Donc voilà, j'ai voulu, créer cette association et je me suis engagé, finalement, à lui faire de sa vie un rêve. J'en ferai un rêve. Je veux la faire rêver tout le temps.
Donc c'est effectivement quelque chose de difficile à tenir, mais avec ta compagne, vous êtes des parents très attentifs forcément sur le qui-vive tout le temps, et ce qui lui permet à elle aussi d'avoir presque une vie normale, et en tous les cas une vie alors, où y a la joie de vivre.
Oui, après Justine, elle est joyeuse, elle a une joie de vivre terrible. Elle a plus de force que nous. Vous voyez, par exemple, le mois de février, elle a été hospitalisée 5 jours. Le 5e jour, quand tout allait bien, on nous a dit que c'était bon, on pouvait rentrer, elle ne voulait pas partir. Donc moi, avec la maman, on était au fond du seau et elle était heureuse. Elle était super bien. Donc, tant mieux, hein. Mais voilà, ils ont un moral, un courage. C'est un petit bout de 94 cm ou 97 qui vous donne tous les jours une belle leçon de vie. Ouais. Et ça, c'est... Moi, elle m'espante. À 3h du matin, quand on lui change les perfs, qu'on la pique... qu'elle dit rien, qu'elle sourit, qu'elle est contente. Et que moi, on me dit, excusez-moi, vous dormez sur un fauteuil, mais je ne vais pas me plaindre. Je ne peux pas, me plaindre. La petite, hein, est 3h du matin, elle dit rien. Elle ne se plaint pas. Hein. Moi, ce n'est pas grave, le fauteuil. Donc voilà, c'est ces petits moments-là qui nous épatent. Hein. Voilà.
Et est-ce que tu peux, enfin, si tu te le sens, un peu nous en dire un peu plus sur la mucoviscidose? Qu'est-ce que cela a comme conséquence?
Voilà, donc la mucoviscidose, alors, j'en ai un peu marre de dire ce mot, mais bon. La muco, je dis souvent. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Justine appelle la comédicicose. Donc, je trouve ça très joli parce que c'est une petite qui rigole beaucoup. Et donc voilà, j'avais juste envie de le dire.
Oui,
donc la muco, ça touche les poumons. Donc c'est un mucus épais qu'il faut évacuer. Et donc c'est par Justine, c'est par des massages de kiné. Et ensuite, ça touche tout le tube digestif. Donc, Justine, son pancréas ne fonctionne pas. Et donc, ne garde pas les graisses, ne garde rien. Donc, elle est obligée de prendre un médicament pour pouvoir manger. Donc, dès qu'elle à chaque repas, hein, tout corps gras, elle est obligée de prendre ce médicament. À part les fruits, tout ce qui ne contient pas de matière grasse, elle n'en a pas besoin. Mais pour manger, donc, elle prend ce médicament et après, on a une heure pour la faire manger. Et après, elle est supplémentée en tout. Des pâtes très riches, beaucoup de beurre, beaucoup de sel, parce que c'est les enfants qui perdent énormément de sel. On le voit l'été, quand elle transpire, la transpiration, elle est très salée. Ou une larme, vous prenez une larme, vous la goûtez, c'est de l'eau salée. Et donc, grâce à ce médicament, qui est une avancée aussi, hein, on dit que la recherche n'avance pas. Pour nous, elle n'avance pas assez vite, tant que parents. C'est vrai que, mais elle avance, hein, on le voit. Hein. Voilà, ce médicament lui permet de grandir et de grossir comme tout enfant pas malade, sans cette pathologie.
Et alors, Justine a quel âge aujourd'hui?
Alors, Justine va faire 4 ans au mois de juillet.
Voilà. Et alors, est-ce qu'elle peut aller à l'école?
Oui, alors Justine est scolarisée. Donc voilà, il y a un PAI. Donc l'hôpital. Donc, je voulais remercier aussi le service du CRCM, c'est le centre de la mucoviscidose à Purpan, qui s'occupe de Justine, qui est une équipe formidable pour Justine et pour nous aussi, qui est très important, qui sont disponibles tout le temps pour nous. Et donc ils sont venus, donc voilà, il y a un PAI, un protocole, c'est sûr qu'on devrait faire tout, c'est l'hygiène, se laver les mains. Justine peut toucher tout, c'est pas très grave, mais il faut toujours lui laver les mains. Quand elle va aux toilettes, ce n'est pas elle qui tire la chasse. Il faut savoir que on devrait tous faire ça à la maison. Hein. Quand on est aux toilettes, avant de tirer la chasse, il faut fermer le battant et tirer la chasse pour éviter que les bactéries remontent. Parce que les bactéries sont volatiles. Donc, et dans les écoles, il n'y a pas de battant. Donc voilà, c'est pas elle qui tire la chasse. Voilà, après, elle ne mange pas à la cantine. C'est la première année qu'elle va à l'école, on ne la met pas à la cantine parce que voilà, le repas, c'est compliqué. Elle est très surveillée sur le poids et elle a un médicament à prendre et on ne peut pas l'oublier, ce médicament. Voilà. Ça, c'est un chemin à faire avec la maman, je pense, et moi. Voilà, même si on a confiance à toute l'équipe pédagogique, voilà, il faut que... Moi, j'ai de la chance d'avoir mes parents et mes beaux-parents à la retraite. Donc voilà, il se faut un plaisir de garder Justine pour le midi, pour la faire manger. Et là, nous, on est rassurés à le moment.
Parce que les grands-parents sont donc très proches aussi de l'école et du domicile.
Oui, voilà. Ouais, ils ne sont pas très loin. Ils sont très disponibles. Je les remercie aussi parce que sans eux, c'est vrai que c'est... voilà, je connais des familles... d'enfants qui ont la mucoviscidose, c'est un peu plus difficile. Nous, Toulouse, on est très bien desservis au niveau hôpitaux et il y a de très bons services. Je sais que dans le Nord, c'est plus compliqué. Ouais.
D'accord. Donc, l'association Juste sans le apostrophe y croire, il y a bien sûr plein d'informations sur un site.
Oui, j'ai un site internet www.justicroire.fr. Donc, il y a tous les événements qu'on fait. et toute l'actualité. Pas de Justine, l'actualité de Justine, elle est, est sur Facebook. Nous sommes aussi sur tous les réseaux sociaux qui existent. Et ensuite, les événements, et il y a des liens avec, avec Vaincre la mucoviscidose, qui est la grosse structure de la mucoviscidose. Et, voilà, il y a des liens qui expliquent la maladie exactement. Mais après, voilà, on l'explique, nous, dans ces mots, parce que c'est des mots simples. Après, c'est des mots très compliqués, la mucoviscidose. Hein. C'est un langage, c'est sorcier. Voilà.
D'accord. Et donc, tu organises un certain nombre d'événements pour récolter aussi des fonds, pour pouvoir aider la recherche, voilà, entre autres.
Oui, je récolte, voilà, je fais des événements, voilà, qui m'aident à financer la recherche ou à financer des projets avec les hôpitaux pour les patients. Et ensuite, je fais des événements aussi mais pour faire des rencontres, pour informer, expliquer ce que c'est la muco, parce que souvent on ne connaît pas. Et voilà, ce n'est pas une maladie contagieuse, voilà, on nous l'avait dit. Si Justine tousse sur notre enfant, ce n'est pas dangereux. Par contre, l'inverse, oui. Si l'enfant tousse sur Justine, ça peut lui être dangereux. Voilà, ça, on nous avait prévenu, voilà, que, qu'elle va être scolarisée. Voilà, il y a des papas, des parents qui ont peur, mais on ne risque rien. Si elle se taille le doigt, on ne risque rien. C'est la mucoviscidose, c'est une maladie génétique, donc je suis porteur du gène. Et la maman aussi. Et c'est un gène qui a muté et qui a fait ça.
Ça, nous n'y sommes pas toujours préparés, effectivement. Et très prochainement, d'ailleurs, il y a un événement donc, que tu organises pour l'association toulousaine, donc Justi Croire.
Oui, il y a un événement ce samedi 14 avril. Voilà, 14 avril à 17h à une salle de gym à Pompertuzat. Donc c'est à côté de Castanet-Tolosan. C'est à 17h, c'est un cours de Zumba, c'est gratuit. Voilà, on a appelé ça venez donner un peu de souffle à Justine. Donc Justine sera là, elle danse. Voilà, il y a toutes les informations sur Facebook, pas sur mon site internet. Je l'ai, j'ai pas eu le temps de le mettre, je suis désolé. Mais voilà, il faut venir faire des rencontres, c'est important. Voilà, c'est gratuit et venez apprendre, voir une petite fille pleine de vie et qui s'amuse. Voilà, moi quand je vois qu'elle a des étoiles dans les yeux, ouais, pour moi l'événement il est réussi.
Donc, les parents, mais aussi des personnes qui participent, l'entourage, les grands-parents donnent beaucoup, mais en contre, elle renvoie aussi, finalement. Elle renvoie une joie de vivre, oui. Et elle le ressent et elle envoie de l'amour.
Oui, Justine, elle a quelque chose. Hein, ouais, elle a quelque chose. Ouais, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'elle a. C'est. Les parrains de l'association, c'est les comiques, les duos des noms. Et Delphine, elle le dit souvent dans ses publications, c'est un petit ange qui est tombé du ciel pour elle. Et c'est vrai, elle a quelque chose. Voilà, elle est avenante. Là, ici, on n'aurait pas tenu deux minutes. Hein. Si elle bouge pas, c'est qu'elle est malade. Hein. Je viens de me rendre compte, c'est rigolo, de dire elle est malade. Bon, c'est comme ça. Donc, ouais, oui. Alors, c'est une petite fille pleine de vie, pleine de joie, qui s'éclate. Souvent, quand on me demande comment elle va, Justine, si je dis elle est chiante, voilà, c'est que ça va bien. Et on est content de le dire qu'elle est casse-bonbon. Donc, voilà, il faut la. Ouais, je veux la faire rêver. Je la ferai rêver. Toute sa vie, je vais la faire rêver.
En tous les cas, dans tes paroles, dans ce que tu nous racontes, c'est sûr que nous ressentons ici dans le studio de l'émission Ici Demain sur Esprit Occitanie beaucoup d'amour. Et je vous propose de marquer une pause en chanson, et nous l'avions reçu dans le studio, Jean-Loup. Est-ce que Chouf est prêt à nous chanter quelque chose? Alors nous l'écoutons, à tout de suite.
Elle maquille sa voix, met du rouge à lèvres. Dans mes yeux de l'effroi, monte, monte la fièvre. Trempe, trempe dans le formol, folle luciole. Dans sa vitrine m'affole, dédain de fausse idole. Vilaine peau plastique, poupée blanche cadavérique, porcelaine diabolique, pathétique panique. Boum boum, imite les cœurs, horloge sans aiguille. Tic tac, sans lézard dans ses robes qui habillent mes pas. My sweet baby doll. My sweet baby doll. My loup, my lady folle. Ses paupières, ses cils, ses yeux tout clignotent. Son regard immobile, quand s'ouvre ses loupiottes. Mat, mat, l'automate, sa peau de watt. Tat, tat, ses longues nattes, ses joues rougies écarlates. Tremblant, je vacille, je me défile versatile. Enfant, fuite fragile, terreur face au corps à pile. Flic, flac, bouquet lacrymal, orage sans les larmes. Crac, crac, la nuit aux étoiles brûle mes rêves en rafale. My sweet baby doll. My sweet baby doll. My loo, my lady folle. Acrobate déchu, perdu en détresse. Pantine suspendue aux cheveux que je tresse. Creuse, creuse son absence vide de sens. Plonge sa vie dans le silence du berceau qui la balance. J'attends qu'elle hurle des aïe, qu'elle tombe dans mes entrailles. Du haut de mon épouvantail, je suis son guerrier Maasai. Dors, dors dans le décorum des sorciers sans royaume. Sonne, sonne le glas des fantômes. Game over, ultimatum. My sweet baby doll. My sweet baby doll. My loo. My sweet baby doll. My sweet baby doll. My loo, my lady folle. Baby doll sweet. My lady folle.
Adicias, bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission. Et si demain sur Esprit Occitanie, www.espritoccitanie.fr, avec tous les podcasts des émissions en ligne, bien sûr. Et si demain la sagesse l'emportait sur la violence, ce serait peut-être pas mal, n'est-ce pas, Christine Malin?
Oui, oui, ce serait vraiment très, très bien même.
Mais si, 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 mais pourquoi tu ne veux pas parler? Mais tu t'occupes d'une. Donc, tu communiques avec Comme Turquoise, donc un média que tu as créé où tu envoies un certain nombre d'informations, mais pas n'importe lesquelles. Je veux dire, ce n'est pas un média, c'est un média quand même particulier où tu organises aussi un certain nombre de manifestations. Est-ce que tu peux nous les rappeler?
Oui, bien sûr. Oui, effectivement, je ne fais pas de la publicité, je communique sur. Des événements, des auteurs ou des personnes que j'ai envie de mettre en lumière. Et j'ai envie de les mettre en lumière parce qu'ils portent, ils sont porteurs de sens pour les autres. Et ils sont souvent ou un exemple ou un désir de vie qui est tellement communicatif que j'ai vraiment une grande joie de faire mon travail. Je me lève le matin toujours avec effervescence.
Et ce soir, d'ailleurs, c'est ce soir, du côté de la Fourguette, il va se passer quelque chose.
Oui, effectivement, donc c'est Loïc qui va venir parler des druides, sur les traces des druides. Donc ça, je vais le laisser développer. Donc ça, c'est une conférence que j'ai organisée pour eux avec plaisir, avec difficulté, je dois dire, parce que c'est un sujet qui porte à controverse, visiblement. Et donc, on a souvent des choses qui viennent contre nous, curieusement. Voilà, et puis autrement, j'organise jeudi un happy transition. Donc, une fois par mois, dans le bar Les Marins d'Eau Douce à Ramonville. Et j'invite là Amandine Largeau pour le centième singe, qui va parler du centième singe, c'est-à-dire un espace de coworking entre agriculteurs et des gens d'un autre bord, quoi, des gens qui pensent et des gens qui travaillent avec leurs mains.
D'accord. Et ce soir, ça se passe où et à quelle heure ?
Alors, ça se passe rue Jean Dibolle de La Fourguette. C'est à 20h, c'est ça. C'est Place des Glières à Toulouse, c'est dans le quartier de Saint-Simon, je crois. Et il nous posera des questions. Il donnera surtout des réponses à ces questions-là. C'est-à-dire comment faire vivre la sagesse de nos ancêtres dans notre vie de tous les jours. Est-ce que leur vision, cette vision des druides, peut-elle éclairer nos vies ? Il y a une autre question, c'est que fêtaient nos ancêtres à travers la célébration druidique de Beltane ? Et également, ces druides vont peut-être nous aider à renouer le lien avec la terre, avec cette mère terre dont on parlait, Gaïa. Voilà.
Gaïa qui est bien mise à mal par l'agriculture intensive, entre autres. Hein.
Exactement.
Et par tout ce qu'on y fait. Donc, c'est pour ça que dans cette mission, et si demain, nous pourrions dire et si demain, pas après-demain, demain, ils arrêtaient de nous empoisonner avec tous les pesticides, qu'on allait vers une agriculture vraiment paysanne et pas industrielle, peut-être que les choses, et sans doute, et même sûrement, que les choses iraient beaucoup mieux. Alors Loïc Albicetti, j'ai bien prononcé, c'est bien ça ton nom ?
C'est correct.
Donc, pas trop loin du micro, s'il te plaît, juste ça. Donc, est-ce que toi-même, donc, tu vas nous parler ce soir, donc 20h, conférence La Sagesse des Druides nous parle encore aujourd'hui. Donc c'est toi qui vas animer cela à la salle La Fourguette, Jean Diebol, 1 Place des Glières à Toulouse. Alors pourquoi cette conférence ? Est-ce que toi-même tu es druide ou en tous les cas tu as perçu toute la sagesse qu'ils avaient en eux ?
Alors bonsoir. Christian,
c'est ça.
Oui, effectivement, je ne me considère pas forcément moi-même comme un druide, puisque c'est un terme aujourd'hui qui... Bon, certains se réclament encore du druidisme, mais moi, ce qui me parle à travers cette tradition, c'est ce que moi-même, j'ai cherché longtemps dans ma vie, puisque j'ai grandi en ville et en même temps en Normandie, mais j'avais de la famille en Bretagne, donc j'ai fait beaucoup de voyages en Bretagne. Et la nature en Bretagne, la mer, ses menhirs, j'étais près de Carnac. Tout ça m'a parlé très jeune. Et arrivé à la fin de mon cursus scolaire au lycée, je trouvais pas forcément ma voie. J'avais une profonde aspiration à retrouver la nature, le lien avec la nature. J'avais cette conscience que la nature est comme une mère pour nous, que c'est vraiment un être qui nous nourrit, qui prend soin de nous. Voilà, que ce soit à travers les pierres, les plantes, les animaux, qu'on est entouré de beauté finalement et de sagesse, et que la civilisation dans laquelle on est aujourd'hui nous conduit à dédaigner un peu cette nature pour nous créer un monde artificiel en nous faisant croire qu'on va être plus heureux, tout ça, alors que finalement, moi j'avais ce pressentiment que je partage avec beaucoup d'autres, hein, je pense, sur la Terre, qu'on a comme déjà tout à disposition et qu'on s'est surtout beaucoup compliqué la vie en créant tout ce monde artificiel et qu'il était temps de revenir vers la nature, vers des choses plus, vers une vie plus simple, plus en accord avec le rythme de la nature, avec le ciel, la terre, les arbres, tout ce qui nous entoure. Et à travers plusieurs courants, mais notamment le druidisme, les cathares et puis les esséniens, desquels je me suis vraiment rapproché, j'ai trouvé cette voie d'un retour vers la nature pour éveiller sa propre nature, parce que c'est une parole de la sagesse essénienne qui dit que comment vivre avec sa propre nature si on ne vit pas déjà avec la nature, et que la nature autour de nous veut nous conduire vers notre propre nature profonde, intérieure, intime. Voilà, donc j'ai progressivement suivi mon chemin et jusqu'à vivre dans ce qu'on appelle aujourd'hui des villages esséniens, c'est-à-dire il y en a plusieurs aujourd'hui hein, sur la Terre, mais il y en avait un en France, dans l'Aveyron, qui est une terre druidique aussi, hein, parce qu'on parle souvent de la Bretagne quand on parle des druides, et moi-même je le sais puisque voilà, j'étais plutôt breton de ma mère, mais en fin de compte l'Aveyron et l'Ariège aussi, qui est une terre vers laquelle je me suis beaucoup tourné après, j'ai découvert qu'en fin de compte c'était des hauts lieux druidiques, et même on sait qu'aujourd'hui on recense plus de, donc c'est pas du tout ce qu'on croit, on recense plus de menhirs, plus de dolmens, plus de monuments druidiques en Aveyron et en Ariège que dans toute la Bretagne. Voilà. Et donc, moi, à travers ce chemin de essénien, parce qu'essénien, c'est un mot, mais ça rejoint en fait le druidisme, c'est pour ça que je vais en parler, parce que c'est une façon d'être, une culture, une façon de voir le monde qui s'est manifestée de plein de façons sur la Terre à des époques différentes, que ce soit en Égypte, on parle des Amérindiens, on parle des chamans, même de l'Inde, de toutes ces civilisations, en fin de compte, viennent comme d'une tradition primordiale qui s'est manifestée de façon différente suivant les époques, les lieux où elle s'est manifestée. Et le druidisme est une des manifestations primordiales de cette tradition. C'est-à-dire que c'est une religion, j'utilise ce terme consciemment, parce que c'est une religion animiste originelle, c'est-à-dire bien antérieure au christianisme, même à l'Égypte des pharaons. C'est vraiment... en tout cas sur nos terres de l'Europe, parce que ça dépasse largement ce qu'on appelait la Gaule hein, et la France, c'est toute l'Europe et même la Scandinavie, on a parlé des Vikings, tout ça, le druidisme était vraiment une religion, instituée une religion de la nature, parce qu'ils n'avaient pas de bâtiments comme les cathédrales ou les pyramides, pour eux la nature était le temple, c'était vraiment là le lieu où l'homme pouvait se retrouver, avec lui-même, avec sa mère, la mère terre, et communier avec le ciel. Et voilà, donc c'est vraiment c'est un courant, une religion qui a des milliers et des milliers d'années. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on puisse en reparler aujourd'hui, parce qu'il y a le christianisme après qui est arrivé et qui a finalement, dans un grand irrespect quand même, je sais de quoi je parle parce que je suis chrétien à la base, donc je respecte tout ça, mais si on creuse un peu l'histoire, on voit que, notamment à travers Charlemagne, cet être qu'on vante hein, dans les livres d'histoire a été quand même un grand despote et un être qui a, par exemple, fait systématiquement enlever partout où il y avait des dolmens, des menhirs, où les gens priaient ce qu'ils appelaient la mer, c'est-à-dire le réel, la nature, pas un dieu abstrait lointain. Eh bien, il a fait enlever ça parce qu'il avait des intérêts politiques avec l'Église qui finançait ses conquêtes, etc. Et finalement, petit à petit... Bon, le druidisme était déjà finissant à l'époque de Charlemagne, mais ça a été le coup de grâce, même si c'est pas vraiment une grâce. Hein, mais ça a été le coup d'arrêt du druidisme. Et après, peut-être j'en reparlerai, qui est ressurgi d'une certaine manière à travers le catharisme. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais on peut établir aussi des liens entre le druidisme et le catharisme.
D'accord. Frédéric, si tu as envie de lui poser des questions, oui, c'est possible aussi. Hein, si tu as envie de réagir par rapport à ce qu'il vient de dire aussi.
J'écoute. Ouais.
Christine aussi, hein, tu vas en poser. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même, donc, par rapport à ce que tu dis, effectivement, de plus en plus, pas dans tout... toutes les sociétés, mais dans la nôtre, en tous les cas, la société contemporaine, européenne, elle s'est coupée de la nature. Et nous, pourtant, nous en faisons partie de cette nature. Et donc, comme le dit très justement Pierre Rabhi, pour un certain nombre de personnes, et notamment de personnes haut placées qui parlent de nouvelles technologies, de start-up et compagnie, ils vivent en quelque sorte hors sol. Ouais, ils sont toujours en lévitation, mais ils oublient de remettre leurs racines dans la terre.
Ouais. Et on voit qu'ils s'apprêtent même, parce que j'avais vu un documentaire il n'y a pas très longtemps, ça fait quand même peur, hein. C'est assez inquiétant ce qu'ils préparent, parce qu'ils parlaient de 2040 et ils disaient qu'à partir de 2040, ils allaient déjà pouvoir, donc ça rejoint ce que tu dis, des bébés, c'est-à-dire des bébés en capsule. Maintenant, ils savent déjà faire ce qu'on appelle les bébés éprouvettes, hein, avec des fécondations hors du corps humain. Et maintenant, ils préparent, c'est en préparation, donc c'est déjà en train de se faire. Ils vont être capables de faire grandir des enfants hors du ventre de la mère, dans des capsules. Ce qui était déjà annoncé dans certaines séries. Moi, je me souviens, j'avais vu une série qui s'appelait Kyle XY et qui montrait un enfant comme ça qui grandissait et qui sortait de la capsule à déjà 12-13 ans. Et on voyait, ça montrait un peu tous les dégâts que ça pouvait faire. On voyait vraiment comme le prototype d'un être humain qui est plus vraiment humain, qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas qui il est. Et donc, c'est une sorte, effectivement, ça rejoint, je m'étais fait la réflexion que c'est une culture hors sol. C'est-à-dire, on commence avec les animaux ou les végétaux, et puis progressivement, on fait passer ça jusqu'au stade humain et jusqu'à ce que ça devienne même comme naturel et pas choquant, parce qu'on fait arriver ça progressivement. Or, les druides, là, s'ils revenaient d'un coup, tu parlais tout à l'heure des pesticides, mais pour eux, ce serait un viol total. Si, parce qu'eux-mêmes, ils avaient une justice, hein, ils avaient des formes de tribunaux, mais très justes, c'est-à-dire où c'était les anciens, les pères de famille qui réglaient les conflits, comme certains peuples animistes encore aujourd'hui. S'ils avaient été placés devant cette situation qu'on vit, les personnes qui créent ce système de culture hors sol de pesticides, ils auraient été jugés pas condamnés, puisque les druides ne condamnaient pas, mais ils auraient été renvoyés dans la forêt, hein, pour réfléchir un petit peu et à leurs bêtises, et puis ça aurait été inacceptable, impossible.
Oui, Frédéric. Ouais,
je voulais, par rapport au clonage, ce que tu dis, est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être une avancée aussi? Je parle pour moi, parce que je suis par rapport à Justine. Moi, si demain on me dit qu'on peut cloner des poumons et pouvoir donner une chance de plus à Justine à vivre, je crois que je suis pour le clonage. Après, voilà, est-ce que ça peut être une avancée médicale? Après, voilà, sûrement qu'il y aura des dérives. C'est ça qui fait peur. Voilà. Mais moi, dans ce cas, ouais, moi, je serais heureux demain qu'on me dise qu'on puisse, son pancréas ne marche pas. On me dit, grâce au clonage, on peut faire un pancréas pour Justine. Je suis le plus heureux du monde.
Oui, il y a les greffes aussi.
Ouais, mais les greffes, c'est... Il faut des donneurs.
Il faut des donneurs. Puis il y a comme des problèmes éthiques après qui se posent. Même, j'avais vu quelque chose où il montrait que des comportements qu'avait la personne ou des habitudes, des façons de penser qu'avait la personne qui donnait un organe, par la transmission du sang, parce que tout ça est comme est vivant, on n'est pas lié que au corps, mais le corps catalyse des influences, on va dire. Mais ils ont remarqué dans plusieurs cas que par un organe qui était donné, la personne changeait de comportement. Donc moi personnellement, je suis pas contre, hein. Après c'est je pense qu'il faut être capable d'observer les choses et d'être dans une analyse neutre, mais après, ça peut poser d'autres,
voilà,
d'autres problèmes.
Juste, voilà,
mais...
Quand on parle de clonage...
Mais pour revenir au sujet des druides, tu vois, par exemple, à ce que tu dis pour ta fille, je suis sûr que dans le passé, j'ai pas du tout la réponse, hein, mais dans le passé, des êtres comme les druides auraient... ils savaient remédier, il y a remède, hein, ils savaient donner un remède pour... toute maladie, et ils utilisaient énormément les plantes. On sait que les druides avaient une grande connaissance des plantes, surtout les femmes étaient comme très avancées dans cette science des plantes, et qu'il y a d'autres façons plus simples, plus naturelles, mais après, j'ai pas la réponse à tout. Je sais même les cancers, aujourd'hui, on voit que des fois, on est obligé de recourir à la médecine moderne, et voilà, après, il faut pas être fermé. Mais voilà, tout ça, c'est des... C'est des réflexions, mais le problème, effectivement, de toute nouvelle technologie qui arrive, je le vois en me renseignant souvent sur les avancées technologiques, on voit que derrière, souvent, il y a des projets, souvent de l'armée d'ailleurs, qui se servent des avancées technologiques pour arriver à d'autres fins. Donc on met en avant une utilité commerciale, économique, tout ça. Oui. Et derrière, c'est comme des vices cachées pour amener autre chose, quoi.
Oui, et je te rejoins sur ce point-là parce que souvent, et moi je me saute au plafond des fois quand j'entends des journalistes qui, je sais pas, qui mesurent pas, qui n'ont pas la conscience d'eux, mais les puces. Parce que les puces, on a commencé par pucer des animaux. Alors, ce n'est pas les puces qui sautent sur nos chats, nos chiens, etc. Non, c'est celles qu'on met sous la peau et rendre obligatoire. Il y a eu des manifestations et je les salue, ces paysans qui ont manifesté contre le fait de pucer les ovins. Mais le puçage donc, des chevaux, le puçage des animaux, c'est aussi, alors, soi-disant que c'est « Ah, votre enfant, eh ben, on va lui mettre une puce comme ça. Si des fois, il s'éloigne un peu, eh ben, vous pourrez le retrouver avec votre smartphone, l'application et tout. » Ça veut dire que c'est une surveillance permanente de nos êtres, de nous, de notre pensée,
Un viol de l'intimité, de la vie privée, c'est clair.
Donc effectivement, science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme, comme je me plais à le rappeler, ce qu'a dit et écrit Rabelais. Donc il y a effectivement cette balance entre le progrès scientifique qui peut aller dans le bon sens, et c'est vrai que l'armée souvent s'en sert, et même en France, avec le général de Gaulle, pour appeler ce personnage, a défendu la force de frappe, donc la force nucléaire militaire, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des centrales nucléaires qui ont fleuri partout, et c'est très dangereux. Donc, effectivement, il y a cette dérive-là, sans condamner toute. Bien sûr, il y a eu des progrès au niveau de la souffrance et tout, mais aujourd'hui, je me demande aussi si nous avons une ministre, et ça, j'ai fait une émission à charge contre les vaccins un vendredi matin, dans Traversée. Est-ce que nous avons une ministre de la Santé ou de la Maladie? Parce qu'imposer 11 vaccins à des enfants qui n'ont pas encore, bon, toi, c'est encore pire, ta fille, mais acquis leur immunité et on va leur balancer X fois 11 vaccins. Ça paraît, pense, un peu, et surtout, obligatoire. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je suis face à ce problème, puisque je suis moi-même père. J'ai un enfant qui a 3 ans et demi. Donc, je ne vais pas en dire plus sur, ce que je fais personnellement par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est une grande ingérence. Et ça fait peur de voir des dirigeants, c'est-à-dire des êtres qui, avant, un dirigeant, c'était pas n'importe quoi. Chez les druides, un dirigeant, un chef, c'est un être qui était un sage, qui avait été éduqué avant, qui avait traversé des épreuves, qui avait dans la nature, qui était éprouvé, c'était pas n'importe qui. Et de voir que c'est dans tout ce qui est fait, c'est toujours le commerce, c'est-à-dire l'appât du gain qui prévaut et qui est même à l'origine de ce qui est fait. Et dans cette histoire des vaccins, c'est flagrant, puisque derrière, c'est évident que... C'est même dit maintenant, ce qui est incroyable, c'est que c'est dit aux yeux de tous, presque. Ils nous le disent, ils s'en cachent même plus. Et on sait aujourd'hui que c'est purement commercial et que c'est pour faire tourner l'industrie pharmaceutique et que, effectivement, je suis d'accord avec toi sur la ministre. Effectivement, c'est des ministres de la maladie, puisque... Et c'est fou parce qu'on a progressé effectivement dans beaucoup de choses pour certaines maladies, mais on voit qu'elles augmentent sans arrêt. C'est comme, d'ailleurs on peut le voir à notre propre échelle humaine, même dans un couple par exemple, si on se concentre sans arrêt sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, bah, on les fait grandir. C'est le pouvoir de la pensée et de la concentration. Et effectivement, les druides, quelque part, ils ne parlaient même pas de la maladie. Quand il y avait une maladie, ils se concentraient pour trouver un remède, mais... Ils se concentraient sur la santé d'abord, sur comment faire que l'homme soit en bonne santé et dans une harmonie. Et si l'homme est dans une harmonie, alors la maladie ne vient pas. Le cancer, je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est une maladie de notre époque. Comme il y a eu la peste à l'époque du Moyen-Âge, qu'on n'a plus aujourd'hui, mais il y a vraiment ce phénomène de maladie d'époque. C'est-à-dire, et le cancer, pour moi, ça va rejoindre vraiment le sujet du druidisme parce que c'est très intéressant à observer. C'est des cellules qui s'isolent du corps duquel elles font partie et qui pensent qu'elles ont une existence propre et qui se retranchent de l'organisme et de l'harmonie de l'organisme en prenant la force et la vitalité de tous les autres organes pour exister elles-mêmes dans une rébellion. Et finalement, je trouve ça très symptomatique de ce que fait notre époque et notre civilisation occidentale, qui est comme un cancer à elle-même, c'est-à-dire qu'elle pousse les hommes à se retrancher de la nature jusqu'à faire croire que la nature, c'est l'ennemi et qu'on va se protéger de tout, sauf de nous-mêmes, quelque part, parce que souvent, on est à nous-mêmes notre propre ennemi. Et on nous fait croire que la nature est l'ennemi, qu'il faut se protéger, qu'il y a des catastrophes naturelles. On ne va pas voir, avec un autre point de vue, que peut-être s'il y a toutes ces catastrophes naturelles, c'est un cri. C'est un cri de la mer, ce que les druides appelaient la mer, de la terre qui n'en peut plus d'être bétonnée comme ça par toutes les villes, par toute la technologie. Et le cancer, je trouve, est vraiment un exemple. Pour moi, c'est pas anodin que cette maladie grandisse à notre époque parce qu'elle est le reflet physique de ce que fait l'homme lui-même par rapport à la nature. C'est-à-dire qu'il se retranche, il fait partie de la nature, il est un avec la nature. Sans les pierres, sans les plantes, sans l'animal, qu'est-ce qu'il est, l'homme ? Il est né de tout ça. Et il se retranche de ça et il pense qu'il peut vivre en dehors de la nature. Donc, c'est comme une folie, donc c'est comme ces cellules cancéreuses, parce que d'un certain point de vue, on peut dire qu'elles sont folles, puisqu'elles luttent contre un organisme duquel elles font partie et qui les alimente. C'est comme une rébellion contre l'être dont elles font partie. Et voilà, donc pour moi, c'est une illustration. Parce que, par exemple, à l'époque des druides, ça aurait été impossible, ça. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui, j'ai vu, parce que j'ai un ami aussi qui est thérapeute et qui suit ça de près, et il y a des évolutions au niveau de la guérison du cancer, et ils se sont rendus compte que c'est une question de fréquence, de longueur d'onde. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte que quand le corps descend en dessous d'une certaine fréquence, c'est les Suédois, je crois, qui ont amené ça, ils ont appelé ça le Langström, je crois. C'est comme une unité de mesure du taux vibratoire des cellules et du corps humain, et que le cancer ne peut se développer que lorsque l'organisme descend en dessous de, je ne sais plus, 1500 peut-être, Angström, c'est-à-dire cette unité de mesure. Et alors, ils ont remarqué que, bien sûr, il ne faut pas que ce soit en phase terminale, mais quand le cancer commençait, alors de mettre, ils ont créé des sites dans la nature, justement, où il n'y avait plus le bruit, l'agitation de la ville, du monde des hommes. Et ils ont vu qu'en mettant de la musique, souvent la musique classique, d'ailleurs de la Mozart et d'autres, des musiques harmonieuses, et en étant dans un environnement naturel, proche de la nature, eh bien, naturellement, le taux vibratoire des personnes remontait et la maladie s'endormait et ne pouvait plus se manifester. Voilà, ça c'est...
Alors, par rapport à ce que tu dis, alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait là depuis quelques temps. Il faudrait que je vais, moi, demander l'autorisation à un arbre de me confier un peu de son énergie aussi, parce que ça paraît important. Et j'ai besoin d'aller respirer dans les forêts. Et tu t'entendrais, je pense, très bien avec quelqu'un que j'avais eu déjà au téléphone et qui est quelqu'un d'adorable et qui fait la gémothérapie, mais aussi qui a travaillé sur la sylviothérapie. C'est Stéphane Boistard, qui est aussi ariégeois.
Okay,
maintenant, alors qu'il était audois, mais dans les Pyrénées audoises.
Okay.
Et je crois que c'est quelqu'un moi, que je sens adorable. Voilà. Et ce que tu racontes, là, ça me fait vibrer aussi. Et c'est bien, je pense que... Si je n'ai pas tes coordonnées, je les prendrai parce que tu as des choses à apprendre aussi. Peut-être tu devrais aller voir M. Macron, président, pour lui raconter un petit peu des choses, lui susurrer que c'est l'économie, les dollars, les euros et tout ça, ce n'est pas ça. Quand il n'y aura plus que ça, je crois que l'être humain ne pourra plus se nourrir.
Donc il ferait bien envie de faire une petite retraite dans la nature aussi, peut-être qu'il aurait les idées plus claires.
Voilà, parce que traverser que des forêts d'ordinateurs, de robots et tout ça, c'est bien beau, mais voilà, on oublie ses racines. Et je ne sais pas si je vais me tourner aussi vers Frédéric Tecky, donc qui est le fondateur de l'association toulousaine Juste y croire. Donc, qui l'a créé pour sa fille, et à travers sa fille, il fait vibrer aussi, il y a un champ vibratoire par rapport à l'amour. Est-ce que tu as besoin de te ressourcer, Frédéric, aussi ? Est-ce que ta fille Justine peut aller dans la forêt, justement, vibrer aussi avec tout ça ?
Oui, on revient. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille vivre au bord de la mer, même. C'est mieux, même, pour... pour elle, ça serait bon. Nous, c'est pas possible. On y va. On a un logement à la mer, donc ça, on peut y aller quand on veut. Mais au-delà de Justine, c'est moi aussi, d'où le projet que je te parlais tout à l'heure, que je veux faire une ascension. Justine aussi, elle a besoin d'aide. Et on l'aide. Et nous aussi, on oublie souvent les parents d'enfants malades. Avec mon épouse, on ne dort pas beaucoup. On est fatigué. Il y a tout un... Il y a une autre vie à basculer. Et finalement, je me rends compte de positiver. Nous, je trouve qu'elle a basculé en positif. Malgré la douleur, nous, c'est positif. Je crois que déjà, Justine ne serait pas malade, mais je ne vous aurais pas rencontré. Donc, c'est grâce à elle que je suis ici encore aujourd'hui. J'ai fait tout ce que je fais, c'est grâce à elle. Et je le dis souvent, ce n'est pas à cause, c'est grâce. J'ai envie de faire l'ascension du pic de l'Aneto. C'est le plus haut sommet des Pyrénées. Et je pars avec un alpiniste. Voilà, ben, peut-être pour me ressourcer aussi, pour me montrer à moi aussi qu'il faut avoir du courage, ce que me montre Justine tous les jours à 3 ans. Pour montrer que tout est possible. Il faut souvent on se met des barrières pour tout, hein, même pour tout on se met des barrières. Mais non, tout est possible. Il faut juste y croire. C'est il faut y croire. Et moi j'y crois et je resterai positif, même si c'est dur d'être positif. Mais il faut l'être. Il faut relativiser les choses et avancer sur l'essentiel. J'aime bien le discours sur la nature. Bien sûr, il faut.
C'est sûr que moi, je suis un amoureux de la montagne aussi. Et je pense que, en t'écoutant, je vois que c'est sûr que ça peut vraiment t'aider. Je pense régulièrement, même de faire des ascensions, souvent, ça nous permet vraiment de. C'est un dépassement de soi. On s'élève aussi physiquement, mais aussi. Intérieurement, on peut comprendre d'autres choses. Moi, je sais que des fois, ça m'a beaucoup aidé des moments difficiles de ma vie aussi. Je me rappelle d'une épreuve que j'avais eue et j'étais parti monter le Canigou dans les Pyrénées aussi. Et ça m'avait vraiment. J'étais redescendu avec. J'avais d'autres perceptions, d'autres forces aussi pour affronter ce que j'avais affronté. Puis souvent, on dit des épreuves dans la vie, on s'en rend compte souvent après, mais. On ne sait pas ce qui arrive après, pourquoi c'était là. Des fois, on le comprend après. Mais comme tu dis, souvent, ça apporte un bien derrière. Moi, j'ai ma maison qui a brûlé il y a quelques années. En fin de compte, ça a été difficile. Mon enfant venait de naître, il avait 3 semaines. Et en fin de compte, ça a été, il s'est passé plein de choses après. Et j'ai affronté ça sereinement avec ma femme aussi, qui a été impressionnante par rapport à ça. Et finalement, on a eu des grandes bénédictions qui sont arrivées dans notre vie. Beaucoup de choses qui ont changé. C'était comme on avait notre premier enfant qui arrivait. Et ça a été comme on l'a vu après. Ça a été comme pour nous dire, c'est un nouveau départ. Et puis de ça, on a beaucoup avancé dans notre vie.
Et nous, moi, je pense que grâce à Justine, on s'est ouvert aussi aux gens. J'ai fait des milliers de rencontres, mais c'était... C'est génial. Et souvent, les gens me le disent, je rigole beaucoup, il faut plaisanter. Je crois qu'il faut rire 20 minutes par jour. Je crois que j'ai des années d'avance, moi. Et j'aime rigoler. Malgré ça, il faut rigoler, il faut prendre du plaisir. Et peut-être que si Justine n'avait pas eu cette maladie, on serait resté dans notre monde. Comme on dit, métro, boulot, dodo. Et que là, nous, et mon épouse, on s'est ouvert aux gens. On continue encore à en faire des rencontres, encore aujourd'hui. On ne se serait pas connus. Je pense que Justine a donné un sens à notre existence.
Merci pour ce beau témoignage, Frédéric Tecky. Donc, je rappelle que tu es fondateur de l'association toulousaine Juste y croire. Oui. Et qu'il y a un événement, tu nous le rappelles, samedi.
Samedi 14 avril à 17h à Pompertuzat. Donc, c'est un cours de Zumba. Voilà. Ça aussi, je n'aurais jamais dansé la Zumba. C'est grave, elle va me faire danser la Zumba. Et voilà, donc, voilà, c'est gratuit. Il faut venir donner du souffle un peu à Justine, et lui montrer que ouais, mais moi non plus, je ne suis pas dansé. Et puis, je vais lui montrer qu'on va suivre le cours de Zumba.
D'accord. Et donc, Loïc Albicetti, tu es là, toi. Tout à l'heure, à 20h, tu donnes une conférence sur la sagesse des druides qui nous parle encore aujourd'hui. Et donc, c'est à la salle La Fourguette, Jean Diebol, 1 place des Glières à Toulouse. C'est du côté du quartier de La Fourguette. Et donc, tout ça fait que finalement, tu as saisi, tu es jeune, l'essentiel quand même et l'essence de la vie, finalement, à travers tout ce que tu nous as raconté là. Tu as reçu peut-être un message plus rapide et tu es plus sage et bien plus sage que certaines personnes qui ont 60 ou 70 ans ou d'autres qui me disent, et ça me mettait un peu en colère quand on me disait mais qu'est-ce que je peux faire, moi je ne peux rien faire. Et je disais si, et chaque fois je racontais d'ailleurs le conte du colibri, je ne sais pas si tu connais Frédéric, c'est Pierre Rabhi qui raconte ça, c'est un conte je crois arménien, enfin peu importe, mais nous nous trouvons dans une immense forêt, il y a un incendie de tous les diables. Et les animaux, ils sont là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais on ne peut rien faire. Et puis, ils aperçoivent un petit oiseau, un colibri, qui a repéré une flaque d'eau, ou plus même, une mare, ou un fleuve, ou une rivière. Et il va chercher une goutte d'eau, et il la jette dans l'incendie. Et il fait comme ça plusieurs allers-retours. Et le zébu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon pauvre ? Ça ne sert à rien. Et je réponds, je fais ma part. Donc ça veut dire que si chacune et chacun nous mettons notre... et nous n'abandonnons pas notre pouvoir, parce que c'est ça aussi. Hein, c'est pas parce qu'on vous dit vous n'avez pas d'autre solution que celle que nous vous proposons que nous n'avons pas d'autre.
Oui, parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire hein, finalement. Moi je te rejoins complètement parce que des fois c'est souvent ce que je dis quand j'entends. C'est cette parole qui pour moi est comme un mantra. On parle de mantra chez les hindous, mais il y a des mantras négatifs aussi. Et qu'on dit souvent sans s'en rendre compte. Et souvent, on parle de la situation du monde et on dit « c'est comme ça ». Et moi, maintenant, je m'arrête à chaque fois que j'entends ça, parce que « c'est comme ça », c'est un mantra. C'est-à-dire, c'est un mantra qui nous fait courber les chines de plus en plus jusqu'à ce qu'on abdique et on démissionne quelque part de notre pouvoir créateur et de notre responsabilité sur la Terre. Parce que en nous enlevant notre responsabilité, c'est sournois. Parce qu'on nous met tout ça par les infos, les médias, tout ça, pour nous enlever notre dignité et notre pouvoir créateur et notre capacité d'être responsable. Parce que si on nous enlève notre responsabilité, on nous enlève notre dignité, quelque part. Et alors moi, quand j'entends ça, souvent, j'interpelle, je m'arrête là-dessus, parce que pas pour être moralisateur ou quoi, mais que non, c'est pas comme ça, c'est pas nécessairement comme ça. C'est comme ça parce qu'on l'a accepté, parce qu'on a laissé faire aussi, peut-être. Et que la vie n'est pas facile, hein, c'est sûr, mais que non, il ne faut pas... c'est ce qu'on veut nous faire croire, que c'est comme ça, que ça ne peut pas être autrement. Donc je suis d'accord avec toi. Et les druides, ils mettaient vraiment... C'était très important pour eux. C'est quelque chose que je voulais dire là aussi. C'est l'origine du mot druide. Ça vient de l'ancien celtique deru, qui veut dire le chêne. C'est à l'arbre, en fait. Et pour eux, c'était très important, ça, chez les druides, le côté d'être digne, d'être droit, de pas... D'ailleurs, on le retrouve hein, d'une façon humoristique dans les... Mais c'est sympa, c'est un héritage qui nous vient par Astérix Obélix, mais c'est une vérité. On voit des êtres, justement, on parle des irréductibles gaulois, c'est-à-dire des êtres qui ne baissent pas les bras, même s'il y a ce pouvoir romain qui, finalement, emplit tout hein, aujourd'hui. Ce qui est né de Rome, c'est ce qui fait nos institutions aujourd'hui. Il ne faut pas baisser les bras. Et les druides voilà, étaient très liés à cette image de l'arbre. Et pour eux, l'homme était un arbre. Ça, c'était quelque chose d'essentiel dans leur philosophie. Que par nos pieds, on avait des racines. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que souvent, dans ces cultures, même on voit ça chez les Amérindiens, ils marchaient pieds nus parce qu'ils savaient que leurs pieds étaient comme des organes de communication avec la mer, ce qu'on appelle la mer Terre, et qu'il y a une énergie qui monte de la Terre et qu'on voit d'une façon incomparable à travers les arbres et les plantes, cette sève qui monte, et que nous aussi, les hommes, on est des arbres qui doivent unir le ciel et la Terre, et qu'on a un tronc, notre colonne vertébrale, on appelle ça le tronc, hein. On dit le tronc, donc c'est quand même, c'est pas rien, Et que nos pensées, c'est ce qu'ils disaient, les druides, ils enseignaient que l'homme était un être du cosmos et qui venait des étoiles, du cosmos, et que sa pensée était comme des branches, même si c'est invisible. Mais que la pensée humaine était comme des branches, quelque chose qu'il fallait développer pour capter la sagesse, c'est-à-dire quelque chose d'invisible, une intelligence supérieure qui a créé le monde, la nature, et que l'homme aussi avait sa part et devait... par sa capacité de penser, de capter l'intelligence des dieux, enfin comment eux ils l'appelaient de différentes façons, mais oui, ils parlaient d'esprit, de divinité, et que l'homme devait participer à l'harmonie cosmique, et que son rôle sur la Terre, c'était de maintenir cette harmonie, cet ordre, et que l'homme était un arbre et un être qui unit le ciel et la Terre. Et il parlait du père et de la mère, on retrouve ça encore dans Astérix et Obélix, hein, c'est mes références culturelles, je suis désolé. Mais quand ils disent par Bélénos ou par Toutatis, c'est des noms druidiques, c'est-à-dire c'était le dieu père, le dieu du ciel, Bélénos, et Beltane, dont on parle d'ailleurs moins, Beltane était la divinité de la terre, de la terre mère. D'ailleurs, en Irlande et en Angleterre, Beltane est célébré encore aujourd'hui. Beltane est connu et il y a des fêtes de Beltane. Et c'est un des sujets, peut-être que je développerai justement ce soir dans la conférence et dans le séminaire aussi, puisque on va organiser un week-end après sur ce sujet en Ariège justement, qui est une terre hautement druidique, hein, beaucoup plus qu'on croit. Et donc ça aura lieu en mai. Voilà, je sais pas si...
D'accord. Alors juste, parce que là, il nous reste 30 oui. secondes, mais est-ce que tu peux donner, si des personnes sont intéressées, un site, un contact, un téléphone ?
Oui,
en fait, il faut venir vers moi. Donc christine@comturquoise.fr. Et je donnerai toutes les informations... sur le séminaire. D'accord. Tu veux que je rappelle quoi ?
L'adresse Christine. Où s'inscrire.
christine@comturquoise, comturquoise tout attaché, comturquoise.fr.
Merci d'être venu. L'émission a été trop courte, mais je prendrai ton contact si tu veux bien parce que tu as des choses très intéressantes à nous raconter, à nous dire. Merci Jean-Louis Arzac-Fraisse pour la réalisation. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Je vous donne rendez-vous dès vendredi matin. Nous allons parler aussi des fleurs de Bac, mais aussi de naturopathie et puis également de comment cultiver son jardin tout au long de l'année, de produire de manière écologique, bien sûr. Je vous donne rendez-vous donc dès vendredi matin entre 10h et midi dans l'émission Traversée. Bye bye, à plus.